Bruno Cadard.
Analogie est animée et présentée par Jean Curiamont.
Philippe Conary tiendra le rôle de Candide et nous avons à la technique Jean Alain Katz. Bruno Cadard, bonsoir. Vous avez 26 ans, vous êtes médecin à l'hôpital Charles Foy à Ivry, dans le service de gériatrie long séjour du docteur Annick Sachet. En juin dernier, votre thèse de médecine a fait grand bruit puisqu'il y avait 300 personnes pour vous écouter et qu'elle a obtenu la plus haute distinction qu'on attribue à une thèse, et de façon tout à fait parcimonieuse, c'est-à-dire la médaille d'argent de la faculté de médecine. Vos recherches portaient sur l'accompagnement des mourants dans un service de gériatrie long séjour. C'est donc de cela que nous allons parler ce soir, de la vieillesse à l'hôpital, de cet univers médical autour de la mort, des interrogations humaines qu'elle révèle et parfois exacerbe, mais aussi bien sûr d'éthique médicale. Vous portez sur tous ces sujets un regard particulier puisque vous êtes également en formation au ministère de prêtres pour le diocèse de Créteil, et que vous êtes en deuxième cycle de séminaire au Prado, à Lyon. Bruno Cadard, voilà à 26 ans un itinéraire déjà bien rempli. Alors, pouvez-vous nous dire comment est née votre double vocation de prêtre et de médecin ?
Tout d'abord, je ne sais pas si on peut parler de double vocation. Enfin, ça dépend ce qu'on met sous le terme de vocation. Moi, je mettrais plus... Pour moi, la vocation, c'est déjà se sentir aimé, se recevoir comme appelé par son prénom. Ça ne dit pas comment et à quoi, mais c'est déjà se percevoir aimé, se percevoir appelé. Et puis, appelé et envoyé. Alors, comment c'est né, c'est toujours dur à expliquer. Je crois que pour moi, enfin, ce que j'appelle la vocation, c'est donc se mettre à la suite du Christ. Alors, je suis d'une famille nombreuse, militante, chrétienne. C'est là que j'ai été aimé aussi, et je crois que c'est là aussi qu'est née ma vocation. Je me souviens d'avoir parlé de mon désir d'être prêtre à l'âge de 8 ans. Ceci dit, après j'ai grandi, j'ai eu ce désir jusqu'à la 3e, et puis en seconde et première, je suis arrivé au lycée du Creusot, qui était un lycée mixte, où j'ai découvert aussi que le fait d'être aimé par une amie, c'était aussi important. J'ai fait l'expérience justement d'être aimé pendant un an, deux ans, mais restait pour moi toujours la question de que devenait un peu cet appel à être prêtre. Alors j'en avais parlé avec un aumônier qui était notre aumônier de GIC et d'ACE, puisque je participais à la jeunesse indépendante chrétienne sur le Creusot, et aussi j'avais un club d'ACE, Action catholique des enfants. Donc j'en avais parlé, puis c'était resté un peu en l'air, et puis quand moi j'étais en terminale, il m'a envoyé une lettre, lui était en année sabbatique à la trappe Notre-Dame d'Aiguebelle. Il m'a envoyé une lettre me parlant un peu de l'amour de Dieu, de ne pas avoir peur de tout quitter. Alors ça ne disait pas comment, puisque je crois qu'il y a des gens qui quittent tout dans le mariage, et que chercher à vivre sa vie comme chrétien, c'est un appel à tout quitter. Mais bon, sans trop comprendre pourquoi, je l'ai reçu comme un appel à aller voir donc Sylvie, et puis à lui dire que je ne comprenais pas trop, et à prendre des distances. Alors enfin, je crois que c'est là qu'on peut vraiment... Enfin, ça ne s'explique pas, je crois. C'est l'expérience d'une rencontre. Alors c'est la rencontre du Christ, mais ce qui me frappe aussi dans les années qui ont suivi, c'est que cette rencontre, c'est la rencontre du Christ qui appelle à travers les hommes avec qui on vit. Quand je regarde un peu en arrière, je suis très frappé du nombre de visages. Alors je vais en énumérer quelques-uns pour situer un peu. Mais disons que bon... J'ai donc pris mes distances par rapport à Sylvie. J'ai souhaité rentrer au séminaire immédiatement. J'avais 17 ans. Alors le prêtre en question m'a déconseillé de rentrer si jeune au séminaire et m'a demandé de faire des études. Alors je lui ai dit, très bien, je vais faire des études de théologie. Et il m'a demandé de faire des études que j'aurais faites autrement. Alors depuis très longtemps, j'avais envie de faire médecine. Donc je me suis inscrit en médecine et j'ai été à Paris parce que je pensais que là, je trouverais des groupes de formation plus facilement qu'à Saint-Étienne par exemple. Puisque j'étais là à ce moment-là. Alors je suis arrivé à Paris avec l'intention disons, de faire médecine et puis d'arrêter dès que j'avais le concours de première année, que j'aurais montré que j'étais capable de faire. Et j'ai découvert des groupes de formation en monde universitaire, les GFU. Alors ces groupes ont l'originalité de permettre à des jeunes qui sont étudiants à la fois de mener leurs études sérieusement et d'autre part, au cœur de ces études, de se former à être prêtre. Avec comme intuition que on ne se forme pas tout seul à être prêtre, ce n'est pas qu'une histoire entre soi et Dieu, mais qu'on se forme au milieu des gens avec qui on vit, et à la fois des gens non-croyants. Je crois que la faculté, j'ai été marqué justement par la rencontre d'autres camarades qui ne partageaient pas du tout la même foi. D'autre part, on se forme au sein de communautés chrétiennes. Je faisais partie de la communauté chrétienne de la Pitié, qui était la fac où j'étais, et je crois que ça m'a marqué que de me préparer à être prêtre au sein d'une communauté ecclésiale, et pas seul dans un séminaire. J'ai tellement intéressé par cette formation que finalement, quand j'ai eu le concours, au deuxième coup, eh bien, je n'ai pas arrêté médecine et j'ai continué. Donc, alors, la formation GFU, pour expliquer un peu pour ceux qui ne connaîtraient pas, ça se passe de la façon suivante. D'une part, on a des études comme tout un chacun. D'autre part, on nous demande d'être, si possible, présent au niveau de la faculté où on est, dans les différentes activités qui y sont. À un moment donné, moi, j'étais engagé au niveau syndical, au niveau d'un syndicat étudiant. On nous demande aussi d'être présent au niveau d'une communauté chrétienne. Alors pour moi, c'était la communauté chrétienne de la fac. Et puis, on a une vie d'équipe. On se voit une fois tous les 15 jours le soir pour, avec d'autres qui ont le même cheminement, regarder qu'est-ce qu'on vit, comment là-dedans, on reconnaît que le Christ nous forme comme prêtre. D'autre part, on a une formation intellectuelle qui est assez sérieuse, avec des cours de Bible en soirée, des week-ends de théologie. Et puis on passe 3 semaines l'été dans une ancienne abbaye à Solignac, à côté de Limoges, où là on est une centaine de jeunes venant de toute la France, et on suit de façon intensive des cours de théologie, d'exégèse, etc. Alors toute cette formation nous permet en même temps d'opérer un certain discernement sur notre vocation, de voir effectivement si l'appel qu'on a ressenti, puis qu'on avait du mal à exprimer, comment c'est effectivement un appel à devenir prêtre dans l'Église.
Séminaire classique.
Oui, disons qu'elle ne surpose pas. Moi, j'y ai trouvé beaucoup de choses dans le sens où... Enfin, ce qui m'a marqué dans cette formation, c'est l'invitation à vivre d'abord avec tout un chacun. Et à se former en étant porteur de ce que les autres portent. C'est vrai que, soit à travers le temps fait à la faculté, soit le temps fait comme médecin, je suis porteur aussi des attentes des hommes, aussi de leurs questions, de leurs doutes. Et puis, vécu aussi moi-même. Donc c'est déjà une originalité. En même temps, c'est quand même très structuré à travers la vie d'équipe, à travers les collections qu'on fait chacun de notre côté, ou à travers la formation intellectuelle. Donc la formation, au bout d'un certain nombre d'années, disons moi j'ai fait 8 ans de GFU, c'est sûr que ça donne largement un équivalent d'un premier cycle de séminaire.
On dit la formation est beaucoup plus longue.
Oui, on prend le temps. Alors c'est... Bon, pour moi ça a duré 9 ans. Parce que mes études étaient longues. J'ai un autre copain qui a commencé en même temps que moi, il est déjà prêtre. Lui avait fait un BTS d'électronique. Donc ça dépend aussi de la durée des études qu'on a. Une des intuitions, c'est qu'on ne se contente pas de faire des études, mais qu'on prenne 1 ou 2 ans pour exercer. Et ça me semble fondamental que d'avoir été pendant 1 ou 2 ans dans le monde du travail, affronté aux mêmes questions. Alors quand on est médecin, c'est le temps où on est interne qui compte comme ça. Et d'autre part, quand on se retrouve avec un diplôme, bon, moi je me retrouve maintenant avec un doctorat en médecine, c'est sûr que le choix que je fais aujourd'hui n'est pas le même que celui que j'aurais fait en 77. En 77, c'est vrai que j'étais prêt à tout quitter pour suivre le Christ. Pour moi, je n'avais pas grand-chose à quitter. Alors c'était très simple. Aujourd'hui, on m'a proposé plusieurs postes en hôpital, mais aussi en cabinet. Bah, tout quitter, ça prend un autre sens. Je crois que c'est, à mon avis, une des richesses de la formation.
Et à cette époque-là, il y a plusieurs expériences qui vous marquent, notamment une expérience de vie en communauté.
Oui. Disons que, à partir de ma 3e année de médecine, j'ai souhaité habiter avec d'autres étudiants et étudiantes. Un peu le point de base de cette communauté, c'était d'apprendre à vivre en respectant chacun. Alors, on était divers. Ne serait-ce qu'en sensibilité, l'une était charismatique, moi je ne suis pas particulièrement charismatique, Abdon était du Bénin, Après, on a eu un ami qui est venu du Liban. Puis ensuite, j'ai partagé ma chambre avec deux Palestiniens. Donc ça, c'était déjà la base de notre vie de communauté que d'apprendre à respecter chacun tel qu'il était. Ça, ça m'a profondément marqué. D'autre part, on a appris à vivre en partageant les tâches matérielles. C'est déjà là-dessus que se fonde une communauté. Et puis, on essayait de prier tous les matins. Et j'ai appris aussi la place que pouvait avoir la prière quotidienne. Et le fait de porter ensemble, de prendre un temps de silence, de prendre un temps, on disait l'office tout simplement.
Ce qui est frappant dans ce que vous décrivez, c'est finalement la multiplicité de vos activités à cette époque-là. Il y a à la fois la formation GFU, en même temps la fac de médecine, on sait qu'on ne s'amuse pas souvent à traîner le soir lorsqu'on est étudiant en médecine, et en plus la communauté chrétienne de la faculté de médecine, un engagement syndical, je crois que vous avez aussi connu ces fameux mouvements, ces grèves au moment de la réforme, dans lesquelles vous êtes engagé, je crois, aussi à fond. Comment trouviez-vous le temps de tout faire?
Alors, je crois qu'on peut avoir l'impression d'une multiplicité d'engagements. Moi, ce qui m'a frappé dans cette formation, c'est qu'on nous a donné les moyens que ce ne soit pas une multiplicité d'engagements, mais bien une vie centrée. Et que la vie d'équipe, le fait de pouvoir reprendre très régulièrement, faire le point sur ce qu'on vivait, se laisser interroger par les autres copains de l'équipe, prendre des temps de silence, par exemple le temps de silence du matin qui était favorisé par la vie de communauté, pour moi, c'était les éléments qui me permettaient d'avoir une vie unie. Et j'ai pas l'impression de courir dans de multiples directions. C'est sûr aussi que autant mon travail en fac que maintenant mon travail à l'hôpital, pour moi, ça a à voir aussi avec le Dieu de Jésus-Christ. C'est aussi là qu'il me rencontre, c'est là que je me sens formé comme prêtre. J'ai rencontré un peu le Prado. Alors le Prado, c'est l'actualité, puisque Jean-Paul II va venir béatifier le père Chevrier, qui en est le fondateur. Donc je suis en formation avec le groupe du Prado. Alors, à partir de septembre, enfin dans 15 jours, je vais arrêter médecine et je vais aller habiter au Minguette à Lyon, puisque la formation du Prado a comme originalité qu'on habite en communauté, dans des quartiers défavorisés. Un des choix, enfin une des intuitions de Chevrier, c'est d'être d'abord très proche des plus pauvres. Donc moi je vais aller habiter au Minguette à Vénissieux, je suivrai des cours à l'Institut catholique, et je participerai à une vie d'équipe, donc puisqu'on habite en communauté au Minguette, avec d'autres gens en formation.
Alors, c'est une formation qui va s'étendre encore sur combien d'années?
On doit en parler à la fin du mois avec les responsables, mais je pense que ce sera 4 ans.
Et puis si vous êtes médecin, vous ne pratiquez jamais la médecine?
Actuellement?
Oui.
Alors, actuellement et jusqu'à la fin du mois, Je suis interne dans le service du docteur Alix Hachet à Charlefoy. Alors Charlefoy, c'est, pour ceux qui connaissent, c'est le plus gros hôpital de France au point de vue de gériatrie. Alors autrefois, ça s'appelait l'hospice des incurables. Maintenant, ça s'appelle l'hôpital Charlefoy. Alors moi, je suis interne dans un service de gériatrie long séjour. Alors le long séjour, pour que les gens comprennent, c'est un service qui accueille les gens, disons, les plus handicapés, les plus déments, les plus isolés, ceux qui sont refusés par toutes les maisons de retraite. C'est-à-dire quand vous voulez aller en maison de retraite, si vous êtes trop handicapé ou si vous avez des troubles de la mémoire, vous êtes refusé et mis dans des services qui sont chargés de récupérer, disons, les plus exclus.
J'aimerais revenir un petit instant en arrière. Et en fait, c'est en 1977 que vous prenez la décision, pendant votre classe de terminale, de devenir prêtre. Nous sommes aujourd'hui en 1986, presque 10 ans plus tard. Vous nous disiez à l'instant qu'il fallait encore compter au moins 4 ans avant de devenir prêtre. Est-ce que, je vais dire qu'il y a une espèce de contraste entre cette décision ferme, commençant chez vous, très ferme à 17 ans, qui n'a... Enfin, nous n'avons pas l'impression que vous avez beaucoup douté ensuite de votre vocation, et finalement, il va s'étendre près de 13 ou 14 ans avant que vous soyez prêtre. Est-ce que vous ne trouvez pas le temps long ?
Bien, la première réponse, c'est que j'étais très pressé d'entrer au séminaire. Et pour moi, apprendre à tout quitter, ça a été accepté qu'on me dise « Prends du temps et ne rentre pas à 17 ans ». Ça a été aussi après d'accepter d'écouter les gens avec qui je vivais, de prendre au sérieux ma formation de médecin. Alors j'ai été à un moment donné gêné dans mes études, parce que je trouvais ça long, effectivement. Parce que, ayant travaillé comme aide-soignant, comme infirmier, j'avais été aussi frappé par la distance qu'il pouvait y avoir entre le médecin et les malades, et qu'à un moment donné, j'ai envisagé d'arrêter médecine pour être aide-soignant, et que je pensais que c'était une façon d'être au service des plus pauvres. Et puis les responsables de formation, mais aussi les copains qui étaient dans la même équipe que moi, m'ont un peu poussé en me disant « Écoute, on a peut-être aussi besoin de toi, que tu ailles au bout de ta formation », et puis penser que je portais pas encore, que j'avais pas encore mûri ce choix. Donc c'est par, encore une fois, en acceptant de tout quitter et puis d'écouter d'autres, c'est un peu par esprit d'obéissance, que j'ai accepté de continuer médecine. Et puis en début de 6e année, on choisit des stages pour 4 mois, les stages d'externe. Et j'étais très mal classé pour le choix, puisque une fois on est bien classé, une autre fois on est mal classé. Et une amie qui ne partage pas ma foi, mais qui me connaissait bien, m'a dit « Tu devrais aller à Ivry, tel que je te connais, tu t'y plairas. » Mais j'y étais, je ne comprenais pas, et par hasard. Et arrivé là-bas, j'ai découvert d'abord une équipe qui faisait un travail assez fantastique, avec tout un travail d'accueil des personnes âgées, et j'ai commencé à entendre des tas de questions, et le temps m'est plus paru long. Et c'est là que, pour revenir à votre question qui était sur la durée, je crois qu'il ne s'agit pas tellement d'aller vite que de laisser le Christ me former dans le temps et par d'autres. Et je pense que je ne serai pas le même prêtre en étant ordonné, même si j'ai mis du temps. Je porterai tous les gens avec qui j'ai vécu. C'est sûr, par exemple, bon, on parle beaucoup actuellement des problèmes d'euthanasie, des problèmes d'acharnement thérapeutique. C'est sûr que si un jour... le fait d'être médecin me permettra d'avoir une autre parole que le fait de ne rien y connaître et d'être de l'extérieur. Et que le travail qu'on a pu faire pendant 3 ans, et on y reviendra sans doute dans le cours de l'émission, sur ces questions-là, avec l'ensemble de l'équipe, est une parole qui a une portée, à mon avis, très différente. Alors à la fois, ça me permet une autre parole, mais je crois surtout que ça me permet une autre écoute. Et je crois que, moi ce qui me frappe, c'est que l'Église est trop souvent très préoccupée de parler, de dire des choses, d'annoncer. Et moi, je découvre l'importance que l'Église, elle écoute d'abord. Elle se met à l'écoute de ce que les gens portent. Et alors les longues années que j'ai passées, c'est ça, bon, qui me marque. Et j'aimerais d'abord être à l'écoute de ce que les gens vivent et pour reconnaître avec eux l'esprit à l'œuvre.
Alors, en septembre 1983, vous entrez dans ce service de gériatrie à l'hôpital Charlefoy à Ivry. Qu'est-ce que vous y découvrez à ce moment-là ?
Bon, on peut déjà donner des chiffres. C'est donc, j'ai dit, un service qui accueille les gens les plus exclus. Je suis actuellement seul interne pour 224 lits. 224 lits, c'est des salles de 28 lits, alors qui sont divisées, il y a quelques chambres seules, le reste c'est des chambres de 4 et des chambres de 8. Bon, c'est un grand couloir qui traverse ça. Je crois que vous avez les chiffres sous les yeux, mais j'ai souvenir que 55% des personnes ne peuvent plus marcher, 50% ne peuvent pas se lever du tout, même si on les aide.
On considère que 65-68% des gens sont considérés comme prostrés. Alors prostrés, ça veut dire qu'ils passent leur journée au fauteuil et ne communiquent pas.
Oui, je peux continuer la liste. 60% sont désorientés, 39% sont sourds, 38% n'ont que peu ou jamais de visite, 67% ne reçoivent aucun courrier ou rarement. Oui, c'est un extrait d'un rapport que vous avez fait, je crois, au Sénat, pour le Sénat, pour une commission qui s'intéressait à ces problèmes particuliers de gériatrie, je
crois. Oui, c'était l'Association des journalistes catholiques qui avait organisé un débat sur le thème « Peut-on abréger les souffrances ?». Alors, donc on voit, enfin, ce qui m'a frappé au départ, c'est cette misère. Ce qui m'a frappé aussi, c'est le peu de personnel qu'il peut y avoir. Hein, puisqu'il arrive qu'on tourne avec moins d'années de soignants. Enfin, j'ai le chiffre là. Disons que la moyenne annuelle, c'est 2 jours, un aide-soignant pour 15 malades. Mais il est arrivé en période de crise qu'on tourne avec un aide-soignant pour 56. Donc il y a des jours où on n'a pas les moyens de donner réellement à manger et à boire à l'ensemble des malades. Donc c'est ça d'abord qui m'a frappé. Et ce qui m'a frappé aussi, c'est qu'il y avait une équipe qui s'intéressait aux personnes âgées. Alors en plus, c'est une équipe qui a une histoire, qui a été animée par le docteur Annick Sachet, qui essaye de prendre en compte l'ensemble des besoins des personnes. Alors, des exemples tout bêtes. Au lieu d'acheter un appareil compliqué pour faire des électrocardiogrammes, alors qu'on en avait déjà un vieux, ils ont choisi d'affecter cet argent-là à l'achat de fauteuils roulants pour permettre aux personnes de se déplacer. À un autre moment, au lieu d'acheter du matériel médical, ils avaient acheté des machines à laver le linge. Alors pourquoi des machines à laver le linge? Tout simplement pour permettre aux personnes d'avoir leurs propres habits et que ce soit lavé dans le service, au lieu d'avoir uniquement la camisole de l'hôpital. Donc ça dénote un esprit. Et donc en arrivant là, moi j'étais à la fois surpris par la misère. Et quand on s'assied dans une chambre où il n'y a que des personnes démentes, eh bien, au bout d'un moment, on se demande, enfin, on a envie de fuir, quoi. C'est dur les premiers jours. J'ai vu cette misère, mais j'ai aussi vu une équipe qui faisait un travail. Et pendant longtemps, j'ai surtout été à l'école, à écouter, à regarder comment les aides-soignants s'occupaient des gens, et puis à essayer d'apprendre avec Annick Sachet, donc le docteur Annick Sachet, à entrer en relation avec ces personnes.
Comment est-ce qu'on réagit lorsqu'on est encore un jeune étudiant face à la souffrance?
Comment fait pas pour prendre des filles?
Je crois que c'est pas la première fois que j'étais en lien avec des personnes qui souffrent, puisque pendant toutes mes études, j'ai travaillé comme agent hospitalier et soignant dans des services de médecine, et que ça m'a marqué depuis longtemps. Je crois que si on regarde ça de l'extérieur, il y a de quoi fuir. Le jour où on accepte de ne pas fuir et d'être regardé par ces personnes, de se laisser aimer par elles, on n'a plus envie de fuir. Et aujourd'hui où je dois partir, ça m'est dur. Moi, c'est ce qui me frappe le plus, c'est à quel point, au début, pour nous, c'est des démons, bon. Après, c'est des personnes qui vous parlent, qui comptent sur vous, et je dirais même, c'est des personnes qui m'apprennent à vivre, et qui me donnent envie de vivre.
Il y a une communication tout de même qui se fait entre les démons et...
Mais pas tout de même, elle y est.
Elle y est.
On n'est pas toujours en mesure d'accueillir, c'est-à-dire que ce service a été conçu d'abord pour exclure les gens. La fonction de ce service, c'est pas de soigner, c'est d'exclure. Bon. On dit que des gens sont prostrés, mais moi, ce qui m'a frappé, c'est le jour où on a commencé à s'intéresser un peu plus à la douleur dans le service, ça impliquait d'essayer de savoir si les gens souffraient ou pas. Et la première dame qu'on ait plus accompagnée, c'est une dame qui était complètement prostrée, complètement mutique, qui parlait pas depuis des mois, moi je ne l'avais jamais vue, et on s'est mis à essayer de savoir si elle avait mal. Donc on lui tenait la main et on lui parlait. On se présentait, on parlait comme si, sans savoir ce qu'elle pouvait comprendre. Au bout de 15 jours, cette dame, elle s'est mise à répondre. Alors tout d'un coup, on a découvert qu'en fait, son mutisme, c'était pas organique, je veux dire, c'était... Le problème, c'était de savoir si on était prêt à l'accueillir. Alors, c'était à la fois merveilleux de la voir se remettre à parler. En même temps, quand on se redresse et qu'on voit les 7 autres personnes dans le même état, on fait surtout l'expérience de son impuissance. Mais au moins, on sait que ce n'est pas inéluctable.
Et justement, vous nous décriviez tout à l'heure les conditions matérielles précaires dans lesquelles vivait ce service. Est-ce qu'il n'y a pas des moments où on a envie de se révolter?
On a toujours envie de se révolter, mais je crois que la révolte, c'est pas tout. Je pense que les choses n'avanceront jamais par rapport aux personnes âgées tant que l'ensemble de la société n'aura pas réfléchi comment accueillir les personnes âgées et tant qu'on n'aura pas appris simplement à accueillir et à voir positivement la vieillesse. Pour le moment, on vit la vieillesse comme quelque chose d'atroce. Et les gens qui viennent dans de tels services disent que c'est atroce, mais ça ne fait pas bouger les choses. Je crois que ce qu'on a besoin, c'est que des gens écoutent ce que peuvent porter ces personnes-là et essayent d'en dire quelque chose.
Et pourtant, dans le rapport que vous avez fait au Sénat, vous faites une citation d'un, est un livre, vous donnez un témoignage bouleversant. C'est le témoignage d'une personne de 89 ans. Voilà ce qu'elle dit. J'avais ce soir-là la diarrhée et j'ai souillé ma chemise. Je l'ai aussitôt roulée en boule et j'ai sonné pour en avoir une autre. J'ai attendu, j'ai ressonné en vain. J'avais un besoin pressant. Je ne pouvais plus remettre ma chemise toute sale. J'ai ressonné, j'ai attendu encore longtemps. Et puis je me suis levée et je me suis rendue au cabinet, toute nue. Il le fallait bien. Mais quelle humiliation pour moi. J'avais froid, j'avais peur. Je me sentais mal à l'aise, comme si tout le monde me regardait. Jamais cela ne m'était arrivé encore si fort, ce sentiment de gêne, ce sentiment de n'être rien et de n'avoir plus rien. Qui m'aurait dit, il y a seulement quelques mois, que je tomberais aussi bas?
Oui, mais je ne dis pas qu'il n'y a pas cette souffrance. La preuve, c'est que je l'écris. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que il va falloir qu'à la fois on entende la souffrance et qu'en même temps, on essaye d'accueillir tout ce que peuvent vivre ces gens-là. Et que si on se contente simplement de dire « ce sont des pauvres » ou « c'est une situation atroce », on ne fera pas avancer les choses, on fait peur aux gens. Alors moi, ce que j'aimerais, c'est arriver à transmettre un peu ce que moi je découvre dans ce service. À quel point ces gens-là m'apprennent à vivre. Et je vous propose, vous venez de donner une citation, je vous propose une autre. Il s'agit d'un monsieur avec qui on n'avait jamais eu de relation, qui était dans le service depuis 1982, qui était toujours très violent, bon, alcoolique, c'est un ancien sans domicile, c'est quelqu'un qui nous agresse, ne serait-ce que par ce qu'il était. Il venait souvent agresser les soignants au point qu'ils en avaient peur. Et puis un jour, il se met à arrêter de manger. Bon, on fait des tas d'examens qu'il refuse, il refusait les examens cliniques, il refusait tous les examens paracliniques, la radio, etc. Et à un moment donné, il devient complètement mourant. Alors, le docteur Sachet va le voir, enfin, il ne tenait pas debout, mourant, c'est on s'attendait à ce qu'il meure dans les heures qui viennent. Le docteur Sachet va le voir, lui demande ce dont il a envie, ce dont il a besoin, et à ce moment-là, il répond, j'ai envie de Porto et de Malaga. Alors, sur la prescription, très sérieusement, j'ai prescrit du Porto et du Malaga. Et puis, un aide-soignant, M. Jean-Louis, qui antillait, vient voir la surveillante et lui demande, qu'est-ce qu'on fait pour ce monsieur, M. F. Et à ce moment-là, elle répond, mais allez lui demander ce dont il a besoin. Et lui répond, j'ai envie d'aller dans le cinquième. Alors le cinquième, c'était son quartier. Et l'aide-soignant revient, dit à la surveillante, il veut aller dans le cinquième. Enfin, pour lui, ça semblait pas possible. Et la surveillante, sans nous consulter, mais parce qu'il y avait un accord entre nous sur le fait qu'on essayait de répondre à l'ensemble des besoins des personnes, n'a pas hésité et a appelé un taxi en demandant à l'aide-soignant d'accompagner M. F dans son quartier. Et voilà ce que... Enfin, ensuite, on a vu revenir... M. Jean-Louis, qui a été très marqué par l'échange qu'il a eu avec ce monsieur. Alors voilà ce qu'il a écrit après. Ça vous permettra de voir qu'il n'y a pas que de la misère. Alors c'est le monsieur Jean-Louis a intitulé ce texte « Une confession, le poids d'une solitude ». À peine étions-nous entrés dans le 5e arrondissement. Monsieur F. Oh oui, 50 ans. C'est ici que j'ai passé mon enfance, dans ce 5e. Oui, après la guerre, tu vois, mes amis et moi, nous étions les maîtres. Il fallait être dur pour survivre. C'était le temps, mon temps à moi. Vous, aujourd'hui, les jeunes, vous ne savez rien. Tiens, ici, ce café, c'était à moi. Le patron du bar savait qui j'étais. Alors, il me servait ce que je voulais. Mais à ce jour, tu sais, ça a beaucoup changé. Personne ne me dit bonjour. Et oui, c'est comme cela. Et surtout, ne te fais pas d'illusions. Un jour, tu te poseras les mêmes questions. Pourquoi ces gens te tournent le dos? Pourtant, il avait raison, cet homme qui me parlait. J'étais en face d'une personne qui me demandait de comprendre ces derniers jours. J'étais aussi incapable de dissimuler une quelconque réponse. Il me fallait trouver un moyen de garder le dialogue, car à mon silence, Monsieur F. Pourquoi ne parles-tu pas? Cela t'ennuie? Moi, mais pas du tout. Monsieur F. Oh, le Panthéon, et plus loin la place Saint-Michel, et bien d'autres. Regarde, tout ceci, c'est mon enfance ici. Après le boulot, mes amis et moi, nous nous donnions rendez-vous. Ici, rue Jeanne d'Arc, il y avait une charbonnière, et plus loin ceci, cela. Monsieur F pouvait m'apprendre bien des choses sur la vie de Paris. Je me demande qui accompagne l'autre. C'est plutôt lui qui me faisait visiter la ville. Monsieur F, tu voudrais faire autre chose? Moi, non. Monsieur F, alors dis au taxi de nous laisser, nous irons boire un verre. Chose faite dans l'immédiat, bien sûr. Nous voilà devant un rouge, une bière et un café. Bien le café, vous avez compris, c'est le chauffeur. Monsieur F, tu sais Jean-Louis, pourquoi tu fais tout cela? Moi, pourquoi quoi? Je ne savais plus quoi dire. Monsieur F, pourquoi me faire ce grand plaisir? Moi, eh bien, ce grand plaisir, il faudrait poser la question au médecin ou à la surveillante, Madame Bouache. Monsieur F, c'est eux qui ont pensé à moi?
Moi, c'est toute l'équipe du service. Monsieur F. Ce vin, ce porto, ça alors. Hé, hey, regarde, il est fou le taxi. Il est sur le chemin du retour. Taxi, encore un tour sur la place Maubert. Bien sûr, c'est Monsieur F qui demande au taxi de faire un tour dans Paris. Alors tout recommence à zéro. C'est ici mon enfance, ma vie à moi. Je suis heureux de revoir tout cela. Dire que dans un instant, il va falloir retourner dans cette saloperie de maison. C'est pas une vie pour nous. C'est une putain de prison. Enfin, je peux quitter ce monde d'âne. Je suis content et merci à tous. Cela fait mal à une personne, à moi seul. Alors, le monsieur en question est revenu dans le service. On a trouvé une relation avec lui qu'il n'y avait pas jusque-là. Il s'est remis à manger, il s'est remis à vivre pendant 2 mois. Et puis au bout de 2 mois, il a de nouveau arrêté de manger. Et il est mort, mais en relation avec l'équipe. Alors, ce que je veux dire par là, c'est qu'à la fois, il y a le côté misère. Il y a aussi toute cette parole que le monsieur a pu dire, qu'il a pu réexister comme homme. Il a pu, enfin, il a pu dire...
De votre écoute, de votre attention, qu'on voit autre chose sur la misère. Mais la misère, elle est là. Si vous, vous ne faisiez pas attention, si vous n'étiez pas à l'écoute, et si vous n'étiez pas à l'accueil, eh bien, il n'y aurait que de la misère.
Mais, tout à fait. Il y a la misère, je ne la nie pas. Ce que je voudrais, c'est qu'elle soit entendue, non pas comme quelque chose qui fait peur, ou comme quelque chose qui est inéluctable. On n'arrête pas de parler des problèmes de la vieillesse comme quelque chose d'inéluctable, mais qu'on comprenne un jour que s'il y a ces services-là, c'est notre responsabilité à tous qui est en cause. Si on peut tranquillement avoir des gens en 1986 qui, à un moment donné, ne peuvent plus avoir à boire parce qu'il n'y a pas assez de personnel, sans que personne ne bouge. Si on peut avoir une telle accumulation de personnes âgées avec aussi peu de personnel, bon, il y a les jours exceptionnels où ils n'ont pas à boire, mais il y a tous les autres jours où ils subissent quand même une souffrance morale que transmettait bien le premier texte. Je crois que ça, il faut qu'on se rende compte que c'est notre responsabilité à nous et que c'est pas seulement en pleurant qu'on changera quelque chose. C'est que le jour où on aura accepté de se laisser aimer par ces gens-là, et que ça nous changera nous, mais ça nous obligera forcément à changer. Je crois que, moi c'est ce qui me frappe, quoi. Je ne suis pas le même au bout de 3 ans de ce service-là. La vie pour moi n'a pas le même sens. Il ne vous est jamais arrivé de vous rebeller, mais d'une façon, je dirais, spirituelle, pas contre une institution, pas contre des choix politiques qui ont été faits, pas contre une administration, le fait que vous disiez qu'il y avait peu de personnel, mais une rébellion, je dirais, on est tous un peu tentés par ça, une rébellion spirituelle, en face de la souffrance, enfin, pourquoi est-ce que vous avez connu ça? C'est quelque chose que tout chrétien est à même de rencontrer. C'est-à-dire que ma rébellion, avant d'être spirituelle, elle a d'abord été humaine. Moi, ce qui me rebelle, c'est de voir à quel point une société accepte de laisser des gens dans cette situation-là. Je pense déjà au problème du manque de moyens financiers. Ce qui me rebelle aussi énormément, c'est la façon dont une société n'a comme seule valeur que la vie biologique, au point que, disons, la médecine telle qu'elle est pratiquée, quand elle ne prend pas les moyens d'écouter la personne, en fait, est en train de rendre la vieillesse encore plus dure qu'elle ne l'était. Il suffit d'avoir vu un certain nombre de vieillards attachés dans des lits avec une sonde gastrique avec des escarres et sans traitement de la douleur, pour comprendre ce que ça veut dire. Ça me révolte profondément. Alors, il reste que on a du mal à accepter qu'on soit homme, et quand on voit des corps complètement décharnés, quand on voit des corps qui, parce qu'ils ont une histoire, enfin, souvent les gens, on ne sait pas bien la cause de la démence, hein. On cherche une cause biologique, mais à mon avis, elle n'est pas que biologique, elle l'est sûrement. Mais quand on voit des gens se ratatiner, des corps qui deviennent, enfin, comme les corps qu'on voyait sur les photos du Bangladesh, par exemple, c'est sûr que ça révolte quelque part. Alors ce qui m'arrête, ma révolte spirituelle, je dirais que c'est l'expérience de la rencontre. C'est que ces corps-là, quand on a pris le temps de leur donner la main, le nombre de personnes, c'est marrant, je retiens très mal les noms des gens, mais par contre les gens qui sont morts, disons, dans le service, c'est vrai que j'oublie pas leur nom. Et je me souviens de beaucoup de leurs paroles. Et le nombre de gens à qui on a pris la main, et puis qui, au bout d'une semaine, se remettent à parler, à dire merci, à dire ce qu'ils portent, ça fait que, je sais pas, enfin, ils m'apprennent la vie.
Des expériences de résurrection, en quelque sorte.
Oui, avec la mort bien présente. Parce qu'ils meurent tous. Je veux dire, la dame dont je parlais tout à l'heure, qui s'est remise à parler, une semaine après, elle est morte. Mais elle est morte en relation avec les autres. Elle nous a fait découvrir quelque chose, et je crois que nous, on a appris à vivre. Et quand on... Bon, il y a une dame notamment qui était ma voisine, qui a 89 ans, et que j'accompagne depuis 5 ans. La façon dont elle se prépare à la mort, la façon dont elle prie pour tout le monde, la façon dont elle accueille chaque instant de la vie, je dis, moi je suis profondément marqué par ça. Alors si on se mettait un peu plus à l'école de ces gens-là, je crois que notre vie, elle changerait. Et puis je crois qu'il y a des valeurs qui... Enfin, on apprend à ne plus vivre avec des tas de projets à long terme.
Vous parliez à l'instant de la douleur, et je crois que dans votre service, vous avez beaucoup travaillé sur justement ces nouveaux moyens pour apaiser la douleur, notamment à partir des études qui ont été faites au centre de l'AENAC.
Oui. Alors quand vous parlez de nouveaux moyens, ça nous fait un peu sourire parce qu'en fait, bon, le traitement de la douleur dans les phases terminales repose beaucoup sur la morphine. Or, c'était utilisé il y a 100 ans. Et puis la morphine était complètement mise de côté. D'autre part, la médecine est devenue active, on a cru qu'on allait pouvoir tout guérir, on peut mettre des cœurs artificiels, on peut faire des tas de choses, donc on s'est polarisé sur un traitement, disons, curatif, et on ne s'est pas trop intéressé à la douleur, parce que la douleur, c'est celle de l'autre. Ça n'intéresse pas tellement les soignants. Alors c'est vrai que depuis quelques années, la question traverse la société largement. Il y a eu l'article de Patrick Verspiren sur la pente d'euthanasie qui tirait le signal d'alarme par rapport à la généralisation, à la banalisation de l'euthanasie. Il y a eu la sortie en mars 84 du numéro de l'AENEC sur la souffrance de celui qui meurt, qui expliquait les traitements algiques. Tout ça, c'est basé sur le travail fait par Saint-Christopher Hospice avec Cecily Saunders, Thérèse Vanier, la sœur de Jean Vanier, Marie Benz, à Londres. Alors effectivement, depuis mars 84, moi j'étais marqué, enfin, si j'avais été frappé par l'accueil des personnes dans le service, par le fait qu'on essayait de faire l'animation, j'étais assez frappé par le malaise de l'équipe dès qu'une personne devenait mourante. Très rapidement, les infirmières, si elles aimaient la personne, dès qu'on évoquait un pronostic fatal, disaient « faut pas la laisser comme ça, faut faire ce qu'il faut ». Bon, alors c'était toujours utilisé avec des périphrases, mais c'était l'euthanasie qui était demandée. Et moi, ça me frappait. Inversement, il y avait aussi un vide qui se créait autour de la personne. Alors, moi, j'ai amené le numéro du journal de l'AENEC dans le service, et on a appris à utiliser la morphine, à traiter la douleur. Alors, ça a suscité énormément de questions. Parce qu'une fois qu'on a... Il faut que les gens sachent qu'actuellement, on a les moyens de traiter toutes les douleurs sans jouer ni sur la conscience, ni sur la durée de vie. Donc, alors que ça, c'est une notion qu'on n'a pas. Bon, c'est vrai qu'actuellement, 90% des douleurs ne sont pas traitées au stade terminal. Bon, mais une fois qu'on a traité la douleur, il reste des tas de questions. D'abord, pour savoir si la personne souffre, il faut se mettre à son écoute. Et puis, l'écoute, elle n'a pas qu'une souffrance physique. Elle a aussi une souffrance morale. Alors qu'est-ce qu'on répond? Ça donne envie de fuir. Donc c'est tout ça que... Enfin, c'est aussi une des raisons du mauvais traitement de la douleur, c'est que les gens ont peur des gens mourants.
À vous entendre, on a l'impression d'une espèce de paradoxe. Nous sommes partis d'une situation très difficile, d'une constatation de manque de personnel, et puis tout ce que vous nous dites, eh bien, on a l'impression que il y a un engagement fantastique des personnels en service. Il y a une présence, à vous entendre, il y aurait une présence effective quasiment minute par minute auprès des malades.
Non, je crois qu'il faut... Enfin, les situations, elles sont souvent paradoxal, justement. Faut qu'on arrive à la fois à dire le manque de personnel qui est réel, la souffrance des personnes qui est réelle, et en même temps le fait que ce personnel-là, parce qu'il a pu prendre les moyens de réfléchir, bon, par exemple, j'ai proposé que la thèse soit faite avec toute l'équipe. Donc ça a été un élément pour nous, pour discuter sur ces questions-là et essayer de faire mieux. Bon. Alors c'est sûr que ça a permis, par exemple, le texte de l'aide-soignant a été permis par ce travail-là. Mais s'il y a un monsieur qui a pu aller dans son quartier, combien d'autres meurent encore seuls? Simplement, on a pris parti d'accepter, d'essayer d'avancer en acceptant qu'on n'arrive pas à tout faire. Quand on voit une dame qui se remet à parler, on n'oublie pas de voir les sept autres qui ne parlent pas. Mais cette dame qui se met à parler nous permet de mesurer le scandale des autres qui ne parlent pas. Et je crois que c'est ça. Il faut arriver à la fois à essayer d'avancer, à voir aussi ce qu'on peut faire de positif, et en même temps, c'est ça aussi qui nous permet d'avoir la conscience aussi de ce qu'on ne fait pas, et de ne pas considérer que ce soit normal.
Alors ce qu'il y a aussi d'original dans votre hôpital, c'est qu'il y a des associations de famille.
Oui, alors le docteur Sachet a suscité, en moment où je suis arrivé dans le service, c'est-à-dire en octobre 83, une association des familles. Alors c'est une association type loi 1901, qui rassemble les familles et amis des pensionnaires du service. Alors l'intérêt, c'est que les familles ne soient plus seulement en situation de dépendance, qu'elles aient un lieu où elles puissent se retrouver entre elles, qu'elles aient aussi une possibilité de parole sur l'hôpital, alors que jusque-là, elles sont complètement livrées devant une administration, devant des médecins, enfin, elles sont seules avec leur vieillard, et se sentant, ayant peur de dire des choses, de peur que ça se retourne contre eux. Alors que là, ça leur permet aussi d'échanger entre elles sur ce qu'ils rencontrent, de la même façon que vous avez des associations quand on est confronté à un même problème. Bon. Alors, cette association s'est développée, et elle a permis beaucoup de choses. D'abord, par exemple, pour la thèse que j'ai faite, qui était de reprendre un peu les questions qu'on s'est posées depuis 3 ans, j'ai demandé aux familles d'y participer. Alors, elles y ont participé de deux façons. D'une part, on a fait une réunion avec elles en juin 85, où l'équipe les a invitées à venir réfléchir ensemble sur le traitement de la douleur, sur l'euthanasie, sur l'accompagnement des mourants, sur l'acharnement thérapeutique. Donc, on a passé une après-midi à réfléchir ensemble. D'autre part, elles se retrouvent pour essayer de dire quelque chose de ce que vivent leurs parents âgés. Alors, il y a eu un film qui a été tourné avec Daniele Nicalterra, qui a reçu différents prix, notamment le premier prix au Musée de l'Homme, qui a reçu aussi le premier prix des Super 8 à Montréal, où les familles, qui présentent quelque chose de la vie des personnes. Et actuellement, les familles sont en train de préparer une émission de télévision où elles vont essayer encore de rendre compte de ce qu'elles vivent avec leurs parents âgés. L'idée étant qu'à la fois, il faut rendre compte de la misère qui existe, et en même temps, essayer de dire quelque chose de positif, des liens qu'il peut y avoir dans une famille, puis aussi de ce qu'ils peuvent avoir de difficile. Et puis on est en train de préparer un congrès de psychiatrie à Montreuil en novembre, qui est organisé par le journal Vie sociale et traitement. Et alors, les familles sont en train d'une part de préparer un bilan de leur action depuis 3 ans, et d'autre part, et ça me semble assez original, il se trouve que le fait qu'on ait créé une possibilité de parole fait que des familles restent membres de l'association des familles alors que leurs parents sont déjà morts. Et ils viennent quand ils continuent à venir dans le service, pour réfléchir avec nous, pour continuer à travailler avec nous. Par exemple, la présidente de l'association, Mme Druyard, est restée membre de l'association alors que sa mère est morte. Et ces familles, il y en a 4 qui vont essayer de rendre compte de ce qu'elles ont vécu à travers le placement de leurs parents, leur démence, leur maladie et leur mort. Alors ça me semble énorme de voir à quel point des familles peuvent tout d'un coup essayer de risquer une parole pour que la question puisse avancer.
Ce qui est frappant à vous entendre, c'est qu'on a l'impression que d'un côté, le code médical, de l'autre, les malades, les familles, tout cela commence à former une communauté.
Communauté, le mot est trop fort. Enfin, encore une fois, je crois qu'il faut dire tout à la fois. Je crois qu'il y a des choses qui bougent. Je pense qu'on a des éléments pour que ça aille plus loin, parce que le fait qu'il y ait une association, par exemple, c'est un stimulant très important pour que les choses puissent bouger, mais il ne faut pas rêver non plus. Je crois que beaucoup de familles, par exemple, quand elles arrivent dans un tel service, c'est tellement dur à supporter qu'elle fuit.
Et en même temps, il y a un projet tout à fait original, je crois, auquel sont associées les familles, c'est celui de la rénovation d'un service.
Oui, alors, l'hôpital Charlefoix est en cours de rénovation, et le fait qu'il y ait dans le service une association des familles a permis que les plans de rénovation soient faits en lien avec eux. C'est-à-dire que depuis 2-3 ans, les familles participent à des réunions pour réfléchir aux besoins de leurs parents, à leurs besoins à eux, qu'est-ce qu'eux pourraient souhaiter par rapport à de tels établissements, qu'est-ce qu'ils attendent de tels établissements. Et les plans ont été dessinés en lien avec eux.
Et il vous arrive, dans les contacts avec les malades, lorsque la parole a été rétablie, lorsque la communication a été faite, de révéler que vous êtes séminariste et d'engager peut-être une conversation sur l'essentiel.
Votre question, elle est de ma place de séminariste là-dedans, plus largement.
Oui.
Alors moi, je suis très prudent par rapport aux malades, dans le sens où ils sont déjà complètement dépendants de nous. Donc si vous tenez à la fois le pouvoir médical et le pouvoir spirituel, je crois qu'il faut faire attention à ce qu'on fait. Donc je me tiens très en retrait à ce niveau-là. Ceci dit, il est arrivé que tel ou tel malade me pose directement la question, par exemple, êtes-vous croyant ? Bon, je réponds, mais je ne vais pas plus loin. Ma place de séminariste, c'est plus par rapport à l'équipe, où là, je n'hésite pas à témoigner, où le texte qu'on avait fait au Sénat, j'avais dit qui j'étais, ce qui fait que l'ensemble de l'hôpital sait que je suis en formation pour être prêtre. D'autre part, récemment, il y avait eu un portrait d'un séminariste sur FR3. Alors là, des malades l'ont aussi vu. Donc, par la télévision, effectivement, et par le Parisien Libéré, ils avaient su ce que je faisais. Mais avec les malades, je me tiens à mon rôle médical.
Ça ne fait pas un peu souffrir de justement de vous amputer en quelque sorte de ce qui est pour vous fondamental? Je crois qu'on n'a jamais parlé de ça.
Non, non. Quand on accompagne des personnes mourantes, on apprend d'abord à se taire. Et même si j'étais prêtre, je crois qu'on a d'abord à apprendre à se taire, à écouter ce que la personne dit et à accueillir ça, avant de vouloir passer l'état de mort. Je crois qu'on a trop vite fait de mettre des mots sur la souffrance.
Sur votre statut de séminariste à l'intérieur de votre accompagnement des malades. Et en même temps, vous disiez que c'est à l'intérieur de l'équipe médicale que votre témoignage se faisait de façon beaucoup plus explicite. Est-ce que vous pourriez nous en parler davantage?
Oui. C'est pas très facile hein, comme question, mais on va essayer d'en dire deux mots. Je crois que le témoignage, déjà, les gens savent qui je suis, puisqu'ils ont appris que j'étais en formation pour être prêtre. Alors, ils me connaissaient déjà depuis un an. Ils ont été tout surpris de savoir que j'étais en formation pour être prêtre en même temps que j'étais médecin. Alors déjà, ça posait question. En même temps, ce qui m'a frappé, c'est que les gens avec qui je suis, pour 95%, sont très loin de l'Église, m'ont été blessés à un moment donné par l'Église, pour des tas de questions. Je pense à la place des divorcés, par exemple. Il y a des tas de gens qui se sentent exclus. Et qui de prime abord, ou alors leur place qui est très difficile auprès de vieillards mourants, tout le discours éthique et moral de l'Église n'est pas toujours bien perçu, à la fois par les médecins et par les équipes soignantes. Alors, le jour où ils ont découvert que quelqu'un avec qui ils cheminaient depuis longtemps était aussi en formation, ça leur a permis un autre regard. Et j'étais frappé du nombre de gens, notamment quand je passais de garde, qui disaient « Ah, c'était en formation pour être prêtre, moi je suis un tel, moi j'ai telle histoire », et qui me racontaient leur histoire. Donc c'est déjà, je crois que c'est déjà un... Là, que je pense qu'il y a une certaine écoute. Ma place de séminariste, je dirais, c'est d'abord d'écouter ces gens-là, et d'écouter tout ce qu'ils peuvent porter, et d'être témoin de tout ce qu'ils peuvent porter comme richesse.
Est-ce que ça a profondément changé vos relations avec les personnes qui vous entourent, les médecins, les aides-soignants, les infirmières?
Non, je donnerais juste une idée, enfin une boutade, quoi, le secrétaire du bureau qui est souvent grossier. Le jour où il a su que j'étais séminariste, il m'a dit « Ah, mais je vais devoir parler autrement », il m'a dit « Oh, vous me connaissez bien, on ne va pas changer de relation ». Et c'est vrai que les relations n'ont pas fondamentalement changé. Par contre, c'est vrai que des gens s'adressent à moi, non pas parce que je m'appelle Bruno Cadard, mais parce que je suis en formation pour être prêtre. Je me souviens d'une nuit où j'étais de garde. Bon, la veille, j'avais accueilli le fils d'une infirmière qui venait de tenter de se suicider. Et le lendemain soir, à 11h, elle m'appelle en me disant « J'ai vu que tu étais de garde, est-ce que tu pourrais passer ?» J'avais appelé un prêtre, il m'a parlé de toi, il m'a dit que tu pouvais me joindre. Donc elle m'a appelé au titre du fait que j'étais en formation pour être prêtre. Et pendant de 1h à 3h du matin, elle m'a raconté sa vie, une vie très dure. Moi j'étais tout fin là. Je crois que ce qui marque à Ivry, c'est le nombre de gens. Sa mère était fille-mère. Et bon, ben, à 3h du matin, on a terminé en disant notre père ensemble. Et puis quelques temps après, elle m'avait demandé de baptiser son petit-fils. Bon, donc elle m'appelait au titre de ma responsabilité. Je pense aussi à une autre infirmière qui était très très en réaction contre l'Église, au point que tu te bats contre une caricature de l'Église, et je lui avais proposé un livre de théologie, le livre de Varron, ce Dieu absent qui fait problème. Il y a du mal. Et j'ai reçu au centre paroissial un coup de téléphone d'elle. Donc ce qui me fait...
De faire allusion au centre paroissial, c'est aussi une autre partie de vos activités. Qu'est-ce que vous y faites? Comment est-ce que vous êtes intégré à l'équipe là-bas?
Alors pour moi, le centre paroissial, c'est pas d'abord des activités à faire, c'était d'abord la découverte du fait d'habiter avec d'autres prêtres. C'est pas rien, enfin quand on est étudiant, quoi. Bon, on se dit je veux être prêtre, mais le jour où on habite dans un centre paroissial, ben, ça fait un certain choc, quoi. C'est là qu'on réalise un peu le pas qu'on est en train de faire. Et puis c'est de me mettre à l'écoute des autres copains prêtres qui sont dans ce presbytère. Et je crois que j'ai d'abord reçu beaucoup de leur regard pastoral, la façon dont ils regardent les gens, dont ils regardent la vie. Et je crois que ça a profondément marqué ma présence à Ivry. Je sais qu'ils m'ont appris à regarder autrement. Alors je participe aux réunions de l'équipe de prêtres régulièrement, c'est-à-dire qu'une fois tous les 15 jours, on fait une réunion sur tel ou tel aspect de la pastorale. Par exemple, soit la pastorale plus particulièrement par rapport au monde ouvrier, soit la pastorale... on a fait une fois une réunion sur les problèmes des... comment on vivait les célébrations des funérailles, soit une réunion sur le monde de la santé. Et je dois dire que c'est un élément important pour moi. Alors en général, je suis absent du service juste le temps de la réunion, ils savent à peu près où je suis, ils sont un peu habitués.
J'ai l'impression que vous avez quand même pas mal d'humour et ça doit quand même pas mal vous aider aussi.
Bon, l'humour, il en faut, hein.
Oui, je crois.
Alors, l'autre activité que j'ai sur le centre paroissial, c'est les 4e, 5e. Et pour moi, c'était aussi quelque chose d'important.
La catéchèse, alors.
Alors, c'est pas exactement du catéchisme, puisqu'on est à Villejuif, il y a très peu de pratiques. On est très peu, je veux dire, on n'est pas au centre de Paris. Je crois que la pratique, c'est 1%, dire plus. Sur une ville de 55 000 habitants, on touche 14 4e. Donc ça donne une idée un peu de... Bon. Donc on rencontre les jeunes deux fois par trimestre sous forme de dîner-débat. Et là, moi, j'y découvre un peu quelque chose. D'abord, être à l'écoute de ce que portent ces jeunes, des questions qu'ils peuvent avoir. Et puis en même temps, ben, comment dire Jésus-Christ? Bon, moi, je me rends compte que Jésus-Christ, ça me fait vivre, que ça me donne envie effectivement d'y donner ma vie. Mais comment transmettre ça? Et comment les rencontrer pour qu'eux aussi puissent en vivre quelque chose, sachant que leur situation n'est pas facile. Ils sont dans les écoles, ils sont seuls chrétiens pour toute la classe. Et puis, parfois raillés. Donc c'est un peu là... Enfin, c'est ce que j'ai découvert, quoi, comme souci. Comment annoncer Jésus-Christ?
Quelle impression ça fait, ou quelle question est-ce que ça pose à un jeune séminariste d'être justement futur jeune prêtre dans un clergé qui vient vieillir?
Oui, enfin, moi ça m'inquiète pas trop de voir qu'il y ait moins de prêtres, ça m'inquiète pas trop de voir l'évolution de l'Église, je dirais que c'est un peu, enfin, moi je le vois plutôt sous l'aspect de la chance. C'est-à-dire qu'on redécouvre l'Église non plus comme celle qui tient tout le tissu social, mais comme un peu celle qui est signe de l'amour de Dieu, mais qui reconnaît que l'amour de Dieu ne vit pas que dans son sein. Alors c'est sûr que le stage que j'ai fait à Ivry, c'est sûr que ma présence à Villejuif aussi, m'amène à reconnaître Dieu à l'œuvre ailleurs. Alors, bien sûr, on s'inquiète un peu quand même, on se dit avec qui on va être prêtre. Alors, je crois que bon, c'est là que pour moi se place aussi l'engagement au Prado, le fait d'avoir une vie d'équipe régulièrement, d'avoir d'autres copains avec qui on chemine, et puis surtout de bénéficier aussi de toute une tradition spirituelle. C'est-à-dire tout le, le charisme un peu du Père Chevrier, qui est de toujours revenir à l'Évangile, de relire la parole, de faire des études d'Évangile. Et le fait de savoir qu'on aura des copains qui nous pousseront à le faire m'amène à... Je ne suis pas inquiet, pas fondamentalement.
Vous saurez combien de jeunes en formation auprès de vous ?
Cette année, on sera 16 à habiter ensemble, et puis il y en a d'autres qui sont en formation en lien avec le Prado, mais qui sont dans un séminaire.
Et là, vous êtes installé aux Minguettes.
Alors, là, je ne peux pas vous en dire grand-chose encore, puisque j'ai à peine commencé à... Bon, la rentrée s'est faite il y a 15 jours. Moi, je dois terminer mon stage à Ivry, donc pour le moment, je fais beaucoup de TGV. Donc hier soir et ce matin, j'étais à Lyon. Demain, j'y suis aussi. Mais entre-temps, j'aurai assuré mon travail à l'hôpital Charles-Foix.
En 26 ans, Bruno Cadard, vous avez réalisé déjà beaucoup de choses. Quels sont vos projets d'avenir ?
J'ai pas de projet d'avenir. C'est-à-dire que souvent on me demande est-ce que tu te prépares à être médecin prêtre ? Je me prépare à être prêtre et non pas à être médecin prêtre. Si j'ai un projet, c'est de me donner les moyens, enfin qu'on me donne les moyens que je puisse toujours être à la suite du Christ. Après savoir comment ça s'incarnera, je sais pas. C'est sûr que ce que je vis à Charlefoix m'amène à me dire que là, il y aurait place pour un prêtre médecin. Tout le travail qu'on a pu faire avec les familles, avec l'ensemble des médecins, je me dis, ben oui, il y aurait place pour un prêtre. Je pense que j'en dirai quelque chose au père Fratel hier, puis j'ai commencé à lui en dire quelque chose. Maintenant, je sais aussi qu'il y a d'autres besoins, et je sais aussi que ce qui m'a marqué pendant 3 ans, ben, je pourrais le porter autrement. Et que, par exemple, le fait que j'ai été médecin me permettra d'avoir une certaine parole au niveau du monde de la santé, même si je n'exerce pas à ce moment-là.
Bruno Cadard, nous vous remercions pour cette émission. Mais avant de nous quitter, je crois que vous tenez à donner les adresses des centres de formation qui vous ont marqué et dont vous nous avez parlé à l'instant. Il s'agit d'abord des GFU.
Oui, alors je pense que s'il y a d'autres jeunes qui nous écoutent, moi je souhaite aussi qu'ils aient la possibilité de rencontrer ce mode de formation qui, moi, m'a permis de vivre. Alors, la première adresse, c'est l'adresse des GFU. Alors, le responsable régional des GFU, c'est le père Jean-Loup Lacroix, L-A-C-R-O-I-X, séminaire Saint-Sulpice, 33 avenue du Général Leclerc, ici les Moulineaux. Téléphone 46 44 78 40.
Vous pourriez peut-être donner le téléphone, oui.
Oui, alors 46 44 78 40, c'est le père Jean-Loup Lacroix. Alors pour le Prado, on peut s'adresser au père Joseph Musser, M-U-S-S-E-R, 8 bis rue Léo Lagrange, 69200 Vénissieux. Et le téléphone, c'est le 78, avec le 16 devant, 70 96 80. 78 70 96 80. Il y a une autre chose que j'ai à cœur, c'est aussi de dire que ceux qui seraient intéressés par la thèse, dans la mesure où un des buts qu'on a, c'est de faire connaître un peu les questions que nous on s'est posées avec les familles, avec les autres soignants, pour échanger soit avec d'autres équipes soignantes, soit avec d'autres personnes dans la société. Ça m'a amené à diffuser la thèse autant qu'on en veut. Alors pour le moment, elle n'est pas en librairie, il y a un projet, mais pour le moment, je la diffuse sous forme artisanale. Il suffit de m'écrire à l'adresse suivante, Bruno Cadard, centre paroissial, 2 ruelle au Puy, 94 800 Villejuif.
Alors, centre paroissial, 2 ruelle
au Puy, alors ruelle, plus loin O-A-U, plus loin Puy, P-U-I-T, 94 800 Villejuif. Alors, elle me revient à 100 francs, donc j'invite les gens à mettre un chèque avec, plus 25 francs de port. Voilà.
Eh bien, je crois qu'il y aura beaucoup de nos éditeurs qui auront à cœur de rencontrer davantage et réfléchir davantage sur ces questions. Un grand merci, Bruno Cadard.
De rien.